Vous écoutez
RMC.
Excellente journée sur RMC. Très belle journée à vous, il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Pourquoi les prix des carburants augmentent-ils si rapidement? Bercy promet des contrôles pour éviter les abus dans les stations-service où les prix sont déjà en hausse. Au sixième jour de la guerre au Proche et Moyen-Orient, vous verrez que les bombardements continuent ce matin et que le conflit s'étend encore un petit peu plus. Nous serons dans ce journal à Marseille où un concert du rappeur Kanye West fait polémique après ses sorties antisémites. Et nous serons aussi à Lyon qui jouera ce soir en Coupe de France de football contre Lens au lendemain de l'élimination de l'OM.
Le monde entier s'inquiète pour les carburants.
Oui, avec le blocage du détroit d'Ormuz dont on parle énormément et qui se retrouve au cœur de la guerre, très peu de bateaux s'y aventurent. Les Iraniens disent qu'ils sont dans le contrôle. Il y a pourtant, vous le savez, 20% du pétrole mondial qui y transite. Et ça a déjà des incidences puisque le prix du baril de pétrole augmente. Sur la pompe aussi, 5 centimes de plus pour l'essence en une semaine, d'après les relevés officiels. Thomas Becker du service politique à RMC. Bercy promet donc des contrôles pour éviter les abus.
Oui, la répression des fraudes a reçu la consigne de Bercy, opérer des contrôles aléatoires dans les stations-service. Le but, vérifier que la hausse des prix soit proportionnée avec l'augmentation réelle des prix du baril de pétrole, effet de la guerre au Moyen-Orient. Certes, ces contrôles peuvent avoir un effet dissuasif pour éviter la spéculation, mais dans les faits, aucune loi ne permet de réguler les prix à la pompe. Pour l'instant, la hausse des prix reste contenue. En moyenne, le litre d'essence est à 1,77€. Mais avec l'imprévisibilité du conflit au Moyen-Orient, le gouvernement surveille le sujet. C'est d'ailleurs pour ça que les distributeurs de carburant sont réunis à Bercy en fin de matinée pour vérifier les prix.
La Chine suspend ses exportations de pétrole, on l'a appris cette nuit. L'économie mondiale est de nouveau mise à l'épreuve par la guerre, voilà ce qu'affirme ce matin la patronne du Fonds monétaire international. Alors le conflit, il s'étend encore un petit peu plus ce matin. Il y a encore des explosions qui ont été entendues là ces dernières heures en Iran, au Liban, en Israël aussi, qui fait pourtant état d'une baisse significative du nombre de missiles envoyés par les Iraniens. L'Iran dit pourtant avoir visé, là, durant la nuit, des groupes de combattants kurdes. C'est un fait nouveau dans la guerre et c'est important. Antoine Hollard, vous êtes aux États-Unis, correspondant pour RMC. C'est important parce que les Américains ont, semble-t-il, en tête de soutenir ces groupes de combattants kurdes pour faire la guerre et renverser le régime en Iran.
Oui, ces groupes kurdes seraient en fait armés par la CIA qui depuis plusieurs mois prépare une offensive terrestre avec eux, une offensive conçue pour affaiblir encore un peu plus l'appareil militaire iranien, avec l'idée aussi que les Kurdes pourraient provoquer un soulèvement populaire et précipiter la chute des mollahs. Faut rappeler que les Américains ne veulent pas déployer de troupes au sol, ils mènent uniquement des frappes aériennes et ce seraient donc les Kurdes qui pourraient faire le travail au sol à la place des Américains. Alors hier, la porte-parole de la Maison-Blanche a démenti ces informations. Elle reconnaît toutefois que Trump a parlé dès dimanche avec deux hauts responsables kurdes, mais selon elle, c'était uniquement pour évoquer la sécurité des bases américaines au Kurdistan irakien et pas du tout pour préparer cette offensive terrestre.
Et alors, il est toujours très difficile, là, ce matin, de connaître réellement quelle est la situation en Iran avec la coupure d'Internet et des moyens de communication. Vous confirmez, hein, Lucas Lobert pour RMC, avec des Iraniens et des Franco-Iraniens qui tentent de joindre leurs proches.
La dernière fois qu'Hassan a reçu un appel de sa nièce en Iran, c'était lundi soir. Elle lui a raconté le quotidien dans le pays.
Et les gens désertent les villes, ils vont dans des endroits plus sûrs, dans des villages.
Et pour ceux comme sa nièce qui sont restés à Téhéran,
il y a beaucoup de difficultés pour s'approvisionner en produits alimentaires, en essence. La vie s'est arrêtée en Iran.
Tout comme les communications coupées par le régime. Madi tente d'appeler son père à Téhéran plusieurs fois par jour, sans succès. Elle obtient quelques brèves nouvelles grâce à un ami, un des seuls connectés à Internet. Un centre des gardiens de la Révolution a été frappé juste à côté de chez son père.
Ils sont restés quelque part en sécurité. Sa maison, la porte par exemple, il a été cassée. Il y a beaucoup de maisons autour qui sont détruites.
Forcément, elle a peur pour lui et elle se sent même coupable d'être à l'abri des frappes.
Je suis dans la sécurité, même les Iraniens non. C'est comme un cauchemar.
Alors faute de pouvoir appeler son père, elle écoute son dernier message vocal en boucle.
T'inquiète pas, nous allons bien.
Je t'aime. Je t'aime, auquel elle n'a pas pu répondre depuis 6 jours.
On reparle aussi ce matin de la guerre en Ukraine. Pourquoi ? Parce qu'on est à la veille de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques en Italie, à Vérone. Et la France n'enverra pas de représentants, elle le dit, pour protester contre le retour des athlètes russes et biélorusses dans les compétitions. À Marseille, ce qui fait polémique, c'est le concert qui est prévu en juin prochain, concert du rappeur américain Kanye West. La ville s'oppose à la venue de ce rappeur, auteur de sorties antisémites par le passé, comme pour les 80 ans du débarquement, quand il avait publié une chanson à la gloire d'Hitler. Anna Jaugère, vous êtes à Marseille pour RMC et vous nous dites que l'indignation est générale.
Oui, presque toute la classe politique locale a dénoncé la venue du rappeur américain. Le maire de la ville, Benoît Payan, écrit sur X, refuser que Marseille soit une vitrine pour ceux qui promeuvent la haine et le nazisme décomplexé, en référence aux nombreuses sorties ouvertement antisémites de Kanye West, des actes qu'il dit désormais regretter et qu'il met sur le compte de ses troubles bipolaires. Mais pour Bruno Benjamin, le président du CRIF Marseille-Provence, le rappeur n'a pas sa place à Marseille.
Il y a une espèce de multiculturalisme à Marseille. On est dans une relative paix, donc on veut maintenir ça et on veut surtout pas qu'un rappeur vienne à Marseille en sachant qu'il a à plusieurs reprises déclaré qu'il aimait Hitler, qu'il aimait les nazis. Donc on veut éviter ce genre de polémique.
L'organisateur de l'événement reconnaît l'émotion légitime qu'ont suscité les propos du rappeur par le passé. Mais il insiste, cette tournée s'opère après un mea culpa de l'artiste et il assure avoir été particulièrement vigilant en insérant des clauses pour s'assurer qu'aucun propos illégal ne soit tenu lors du concert.
Et puis au Vélodrome hier soir, il y avait du foot et encore une désillusion pour Marseille.
Oui, avec une saison qui tourne décidément au fiasco. Marseille éliminé au tir au but hier soir par Toulouse. C'était les quarts de finale de la Coupe de France. Les Marseillais avaient pourtant fait de cette compétition un objectif. Il y a Nice qui s'est qualifié également au tir au but. Ça, c'était à Lorient hier soir. Et il y aura ce soir à 21h10, on le vivra sur RMC, le dernier quart de finale entre Lyon et Lens. Nicolas Pelletier pour RMC avec, c'est la particularité, un entraîneur lyonnais sur le banc des Lensois.
Oui, l'entraîneur lensois, Pierre Sage, ne cache pas ses origines.
Et je suis lyonnais, entraîneur lensois. C'est assez clair et ce sera toute ma vie. Entraîneur lensois, je ne sais pas, mais lyonnais, c'est sûr. Je ne veux pas mettre la pression à ma direction.
Pour la première fois de sa vie, le technicien lensois va s'asseoir sur le banc visiteur du Groupama Stadium. Un moment bien particulier.
C'est effectivement mon retour en tant qu'entraîneur. J'y suis allé une fois en tant que spectateur. Il n'y a pas du tout d'animosité. Bien au contraire, je suis très content de retourner dans ce beau stade avec ce beau public.
L'entraîneur ne garde pas des bons souvenirs de son départ de l'Olympique lyonnais. Dans un coin de sa tête, Pierre Sage a encore un rêve, reprendre en main son club de cœur.
J'ai toujours dit que j'étais moins déçu de perdre mon poste que de quitter l'Olympique lyonnais. Je l'ai dit dès le mois de février, après m'être fait virer le 28 janvier. Je pense que ce sera le cas un jour. Oui. J'ai plus d'arguments maintenant que j'en avais au mois de février en plus.
Ce soir, Pierre Sage ne fera aucun cadeau aux Lyonnais. Cette saison, les Lensois veulent absolument remporter la première Coupe de France de l'histoire du club.
Et puis c'est en fin de matinée qu'on va connaître la compo des Bleus du rugby pour aller en Écosse samedi après-midi. Quatrième match du tournoi Destination avec une interrogation sur la paire de centres qui sera alignée donc pour ce match du tournoi.
C'était le journal de Quentin Vinet, 8h08, on parle économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Emmanuel, le Chypre, Bruxelles prend enfin des mesures protectionnistes pour protéger l'industrie européenne.
Oui, Apolline, jusqu'à maintenant, l'Union européenne était la seule grande économie à ne disposer d'aucune ou presque aucune mesure de préférence pour la production locale, avec seulement 6 mesures sectorielles contre presque 1000. Pour les États-Unis, plus de 300 pour l'Inde, 130 pour le Brésil, 110 pour la Russie. C'est ce que montre une étude du think tank européen stratégique Perspective. La Chine aussi contraint ses industriels à acheter chinois. Eh bien, pour combler ce retard, cette naïveté presque, oui. On pourrait dire, Bruxelles a enfin adopté, après d'âpres discussions, un nouveau dispositif pour favoriser le Made in Europe avec cette loi dite d'accélération industrielle.
Il y a quoi dans ce nouvel arsenal protectionniste ?
Alors, dans la pratique, il s'agit d'exiger des entreprises de secteurs stratégiques un niveau minimum de composants européens pour bénéficier de contrats publics. Par exemple, dans les appels d'offres, eh bien, il faudra qu'il y ait au moins 25% d'acier, 25% d'aluminium, 5% de ciment européen. Le tout, s'il vous plaît, à bas carbone. Les voitures électriques, par exemple, subventionnées, devront être assemblées en Europe avec 3 composants de batterie locaux minimum et 70% de pièces européennes hors batterie. Et puis, restriction aussi sur les investissements étrangers. 50% d'emplois minimum, par exemple, en Europe. des transferts de technologie importants. Là, c'est surtout la Chine qui est visée, vous savez, pour éviter ces usines où les usines arrivent avec tous les travailleurs chinois qui vont avec.
L'idée, c'est de faire remonter à 20% la part de l'industrie dans notre propre économie européenne, en fait.
Alors ça, c'est un objectif qui est carrément inatteignable pour plusieurs raisons. Hein. D'abord, on est tombé à 14%.
On a mis beaucoup de temps à se réveiller.
On est tombé à 14% et aucun pays qui a perdu des usines n'a réussi à se réindustrialiser massivement. Et puis, il y a beaucoup de pays qui, à cause de la montée des services, logiquement, voient la part de l'industrie baisser. Même la Chine voit la part de son industrie baisser. Et puis, ce dispositif, c'est surtout ça le problème, a été en partie édulcoré pour satisfaire tout le monde. Et il faut dire que la définition du « Made in Europe » est quand même assez large, puisque, évidemment, est « Made in Europe » tout ce qui est produit sur le vieux continent, mais aussi tout ce qui est produit par les pays avec lesquels Bruxelles a des accords commerciaux dits pertinents. Par exemple, pour les marchés publics, c'est une quarantaine de pays.
Ça sera dans le « Made in Europe » ?
Voilà, c'est-à-dire qu'en gros...
C'est-à-dire quoi, par exemple, le Mercosur, ça peut être dans le « Made in Europe » ?
Bercy, oui. Bercy nous dit qu'il y a 80 pays, en fait, avec lesquels on a des bons accords commerciaux, et on peut considérer que finalement, c'est presque comme si c'était fait à la maison. Vous voyez ? Et donc, voilà. Donc, une nouvelle fois...
C'est délirant.
Une nouvelle fois, l'Europe montre son savoir-faire pour transformer les bonnes intentions en usine à gaz.
Merci beaucoup, Emmanuel Le Chypre. Il est 8h11.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Dans un instant, c'est Arnaud Demange qui nous rejoint. Notez qu'à 8h30, mon invité dans le face-à-face, ce sera le grand spécialiste du monde arabe, Antoine Bazbous. Ne le manquez pas, il est passionnant et ce qu'il décrit du monde à venir est inouï. Il estime que ce que l'on vit aujourd'hui, c'est au fond d'une ampleur comparable à la chute du mur de Berlin en 89. Juste après, il y aura Nicolas Canteloup. Face à Canteloup, c'est en direct à 8h50 sur RMC. Pour l'heure, il est 8h11, restez bien avec nous.
RMC, Apolline Matin. C'est tous les jours de manche.
Il est 8h14, Arnaud Demange est avec nous, salut.
Et bonjour. Apo, Mathieu, Élise Dangean est revenue, Manu Le Chypre est revenu, on dirait qu'on reforme les Black Eyed Peas, c'est génial. I got a feeling it's gonna be a good chronic. Et alors attention, alerte rouge ce matin, la France est attaquée par l'Iran, presque Apolline. Par les pollens. Les pollens sont de retour. On va vous en parler dans Apollen Matin. Les pollens qui sont arrivés avec 3 semaines d'avance, comme des cousins de province. Et ils fracassent. Ils fracassent. C'est pas notre porte-avions qu'il faut envoyer en Iran, c'est nos plantes. Les pollens, ça agace tout le monde, même l'entourage des allergiques.
Ils m'interrompent tout le temps. Ils toussent, ils crachent sur lui, ils toussent, ils crachent sur lui. Voilà.
Alors c'est le moment de faire livrer des fleurs à votre ex si vous l'aimez pas. Hein. T'as reçu mon bouquet ? Je suis aux urgences, connard ! Mission accomplie. Je discutais de tout ça avec Manu Le Chypre dans les couloirs, qui soupçonne son fils d'être allergique, puisqu'il lui demande
« Kevin, quand tu sors avec tes potes à dreadlocks pour jouer du djembé au parc, tu rentres, t'as les yeux tout rouges. C'est le pollen !»
Oui, papa. En tout cas, c'est la faute d'une plante.
C'est pas la même plante, Manu.
Il se fout de vous.
Ça fait longtemps qu'on l'avait pas revu, lui. Allez, l'Iran. L'Iran qui prépare les funérailles de l'Ayatollah Khamenei. Est-ce que le guide suprême sera enterré avec sa cornemuse? Vous vous souvenez qu'il jouait de la cornemuse? On en a parlé toute la semaine. Il y a encore des gens qui n'y croient pas. Et si, il était cornemiste. Alors, ses proches vont essayer de faire rentrer la cornemuse dans son cercueil. Ça rentre pas. Réessaye. Ouais, c'est bon. Et puis les gardiens de la Révolution lui rendront hommage en jouant Le Lion est mort ce soir. Et oui. Vous savez que je l'ai joué moi-même chez moi et on a enregistré. C'est un morceau qui a fait 5 morts et 12 blessés. Alors Reza Pahlavi, le fils du chat d'Iran, donc le chaton d'Iran, se propose pour diriger le pays. C'est une bonne idée, le chat. Ce pays a besoin d'un adoucissant.
Oui.
Par contre, alors, il y a des règles, hein, fiston. C'est pas parce que ton père dirigeait le pays que tu es légitime pour le faire aussi. Commence par te présenter à la mairie de Menton, comme tout le monde.
Voilà.
C'est comme ça qu'on fait. C'est la méthode. La France continue de rapatrier ses ressortissants de Dubaï. Que dis-je, ses ressortissants ? C'est talent.
Oui.
C'est talent. Ça y est, la fuite des cerveaux est enrayée. Ils reviennent tous. On rapatrie les influenceuses qui essayent toujours de résumer la situation à leurs abonnés.
Salut la commu. Et voilà. Je quitte Dubaï parce que c'est la fin du bail. Bye bye Dubaï. Et alors c'est toujours compliqué. Là ils ont bloqué un détroit d'Oumous. C'est un des trois. Alors, je connais pas les deux autres, mais c'est un des trois.
C'est un des trois, je connais pas les deux autres.
Je connais pas les deux autres, à part le mousse, j'imagine. Il y a la tagine et la brique à l'œuf.
Mais bien sûr.
Sinon, on va être attaqué par des vieux qui viennent du Pakistan. Le Pakistan rentre en guerre. Ils sont tout vieux, ils sont très lents. C'est pour ça que le conflit avance pas vite. Mm. Et ils ont tiré sur le Yémen et Abu Dhabi et Oman. Comment elle va faire, Apolline de Malherbe, pour rentrer chez elle s'ils s'attaquent au manque?
Ben oui, Apolline. Vous avez vu comme elle est inquiète pour vous, Maëva. Oh, c'est gentil,
méchant,
quand même.
Franchement,
c'est sympa.
Merci beaucoup de s'inquiéter de moi. La venue de Jim Carrey à Paris pour la cérémonie des Césars a déclenché une vague de théories complotistes sur les réseaux sociaux parce que certains disent que c'était pas vraiment lui.
Oui, alors l'Académie des Césars dément. De toute façon, quel intérêt d'inviter un clone de Jim Carrey? C'est pas comme si le vrai était overbooké, quoi. Il a pas tourné depuis 20 ans. C'est le Jean-Hugues Anglade américain.
Oh non.
Alors, c'est l'occasion de faire un petit quiz. Oui. Sur les buzzers, ces théories du complot existent-elles, oui ou non?
Il y a quoi à gagner?
Non, alors les théories du... Il y a une soirée avec un sosie de Jim Carrey.
Ah ouais.
Alors vous savez, les théories du complot, la Terre est plate, les Illuminati dirigent le monde, tout le monde les a. Mmh. Et ben, il y en a plein d'autres. C'est parti.
On y va.
Il existe une secte de nains qui dirige le monde en secret, les Illumimimati. C'est une fausse théorie. Il y aurait de la 4G dans les vaccins.
Ah bah oui, c'est une vraie théorie.
Il y aurait de la 5G chez SFR. C'est une théorie aussi. On sait qu'il y a de la 2G chez SFR. Autre théorie, les juifs dirigeraient Israël.
Oh non, ça c'est vraiment ça, c'est une théorie.
Ça, c'est faux. Donald Trump aurait été vu dans une bibliothèque avec un livre.
Oh, ça c'est farfelu.
Alors, les Américains n'ont jamais marché sur la Lune. Les images de paysages désolés ont été tournées dans le centre-ville de Guéret.
Oui, oui.
C'est une vraie théorie. C'est une vraie théorie. Les catastrophes naturelles sont provoquées par les maîtres du monde qui vont ensuite les arrêter par l'intermédiaire d'un faux dieu en hologramme.
Oui.
Et
oh,
après,
oui,
ils feront dire au faux dieu qu'il faut tous acheter du coca et comme on croira dans le faux dieu, on le fera.
Ah non, vraie ça théorie, non, ça c'est
faux. C'est une vraie théorie.
Oui, oui, oui.
La théorie,
elle est bien,
elle est super. Le projet Bluebeam, elle a sa fiche Wikipédia, c'est extraordinaire. Le point G n'existe pas, c'est une invention des femmes pour que les hommes aient l'air bien cons en le cherchant.
C'est pas une
Alors c'est semi-vrai, hein. J'ai lu sur Wikipédia, le point G est une zone hypothétique. Donc on ne sait pas, ça reste mystérieux. À demain.
Concours donc tous les jours à 7h20, à 8h20, à tout moment en podcast. Et en tournée, vous êtes à Nice, à Orange, à Avignon, à Toulouse, à Bordeaux, à Biarritz. On rajoute des nouvelles villes tous les jours, Arnaud.
Non, on en rajoute.
C'est un spectacle RMC. On repart sur les routes parce que vous êtes nombreux à nous alerter sur les prix du carburant. Bonjour Julien.
Bonjour.
Julien, comment ça va? Vous êtes transporteur routier dans l'Hérault. Vous avez constaté cette hausse des prix?
Ben, un petit peu, oui. Disons que les 5 centimes qu'on nous vend au gouvernement d'augmentation, tout est relatif. Il faut voir à quoi correspondent leurs 5 centimes, parce qu'on est plus aux alentours de 20 à 25 centimes depuis la fin de la semaine dernière. Chose qui me paraît à moi incompréhensible, parce que bon, le gasoil le pétrole qu'on consomme aujourd'hui, il fait partie des stocks qui ont été achetés quand le baril était à $60.
Exactement.
Donc, moi, je trouve que c'est quand même assez insensé. Après, on nous vend des contrôles de la DGCCRF qui sont 15 au national, donc ça m'étonnerait que ce soit très efficace.
J'avoue qu'ils sont pas nombreux et qu'ils sont déjà censés vérifier tous les colis, donc on va avoir du mal à en envoyer un par station essence, c'est sûr, Julien.
Exactement, et on nous parle de la fermeture du détroit par lequel transite 20% du pétrole mondial.
Mais Julien, vous l'avez constaté, vous? Vous oui. L'avez constaté, les prix, vous l'avez vu? Vous êtes sur les routes déjà ce matin? Vous avez vu quoi?
Bien sûr, on est sur les routes tous les jours. On est sur les routes tous les jours. Moi, je payais le gasoil environ 1,65€ la semaine dernière. Et là, on frôle les 2€. On est entre 1,90€ et 2€.
Ouais. Il y a même eu certains de nos auditeurs qui ce matin disaient que ça avait dépassé les 2,20€. Et je vous rappelle donc cette réunion tout à l'heure à Bercy, le ministère de l'économie qui dit qu'il va réunir les distributeurs. Et en effet, vous le disiez aussi, Julien, c'est vrai que mon invité hier matin, j'étais un peu surprise quand même, c'était la nouvelle ministre de l'énergie. Elle estimait qu'il y aurait peut-être quelques centimes d'euros de hausse, sauf qu'en fait, on est déjà à une bonne dizaine de centimes avant même qu'elle ne l'ait déclaré hier. Hein.
Alors, vous aurez la règle habituelle, hein. Vous savez, un dollar par baril, c'est un centime à la pompe, donc on aura 10-15. Simplement, ce qu'il faut bien rappeler, pourquoi ça monte si vite? C'est parce qu'en fait, les stations, elles sont alimentées par des grossistes et qui, eux, pour acheter le pétrole à son nouveau prix, ont besoin de trésorerie.
Et donc on paye plus cher. Il est 8h22, à tout de suite sur RMC BFM TV. Mon invité c'est Antoine Basbous, spécialiste du Moyen-Orient. Il le dit, pour lui, ce qu'on vit aujourd'hui c'est aussi majeur que l'était la chute du mur. Ça se passe sur RMC BFM TV, 8h23. Merci d'écouter RMC, il est 8h24.
RMC Apolline Matin.
Et le rappel des titres, Victor Pourchet.
Le chef de la diplomatie française au téléphone avec son homologue iranien hier, on l'apprend ce matin, Jean-Noël Barrot a appelé à la désescalade et a exigé la libération immédiate des Français encore détenus en Iran. Autre déclaration de la matinée, celle du gouverneur de la Banque de France qui indique que malgré la guerre au Moyen-Orient, la stabilité financière, je cite, n'est pas en risque. Un mot de votre météo, avec ce voile de poussière venu du Sahara, toute la moitié sud et l'ouest du pays sont concernés. Ce sera plus discret sur le quart nord-est où il y aura beaucoup de soleil, côté température de 15 à 20 degrés, au nord comme au sud jusqu'à 22 degrés en Corse.
La météo sur RMC avec Penny Lane, l'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
C'était le rappel des titres de Victor Pourchet. Dans un instant, mon invité est l'un des meilleurs spécialistes aujourd'hui du Moyen-Orient, Antoine Basbous. Pour lui, ce qui se joue aujourd'hui, c'est aussi important que la chute du mur de Berlin. C'est un tournant majeur. Il est mon invité dans le face-à-face sur RMC et BFM TV. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face-à-face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Antoine Basbous.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes politologue, vous êtes le directeur de l'Observatoire des pays arabes. Vous êtes aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs spécialistes de la région et du Liban en particulier, où vous avez d'ailleurs longtemps travaillé. De nombreuses explosions encore cette nuit et ce matin, à la fois sur tous les fronts, du côté des frappes israéliennes au Liban, l'Iran, Téhéran qui a été de nombreuses fois touché cette nuit, des alertes encore au moment où l'on se parle en Israël. Vous l'avez dit, pour vous, c'est un tournant historique, ce qui se joue. Ma première question, c'est combien de temps est-ce que ça peut durer? On le voit, du côté du Hezbollah comme du côté de l'Iran, malgré de nombreuses pertes et de nombreuses explosions, ils sont toujours debout.
Le temps de la presse, le temps des commentateurs est très court, il faut remplir le vide. Le temps des conflits, des guerres, des enjeux qui se prolonge sur un demi-siècle, c'est un peu plus long. Donc on est au cinquième jour. L'Iran a beaucoup souffert en termes de défense antiaérienne, de capacité. En même temps, ils ont réduit le flux de leur bombardement. Ils attaquent aujourd'hui des cibles molles, c'est-à-dire les intérêts économiques. Regardez dans les pays du Golfe, chez leurs voisins, ils ont essayer de toucher tout ce qui est hydrocarbures, électricité, tourisme, port, transport international. Et donc, ils ont même frappé un allié à eux, qui était le sultanat d'Oman. Ils ont voulu internationaliser en frappant Chypre, qui est dans l'Union européenne, et la Turquie hier avec un missile balistique. Donc, ils veulent, pour écourter cette guerre, les Iraniens qui sont à court de souffle, eh bien, ils cherchent à internationaliser pour exercer des pressions sur l'économie internationale.
Mais vous constatez-vous qu'il y a une réduction de la voilure de ces attaques par rapport à la première réaction dans les heures qui ont suivi, où en effet, on parlait même d'une forme de terre brûlée?
Oui, on l'a constaté par le nombre de missiles et de drones qui sont lancés depuis l'Iran, au point d'ouvrir les stocks des Pasdaran qui sont entre les mains du Hezbollah au Liban. Il y a deux jours, ces stocks qui n'ont pas servi quand Nasrallah, le chef du Hezbollah, avait été assassiné en novembre 2024, aujourd'hui, pour faire diversion, pour soutenir le front iranien, les Pasdaran qui commandent le Hezbollah au Liban ont ouvert le stock des missiles qui se trouve entre les mains du Hezbollah au Liban pour frapper Israël, pour faire diversion, pour frapper également la base britannique à Chypre, à Crotiri.
Ça veut dire pour vous, au fond, Antoine Basbous, que l'Iran désormais va prendre appui sur le Hezbollah, pas seulement pour créer le chaos sur un deuxième front et inviter, provoquer en quelque sorte la réaction d'Israël sur le site Liban. On va y revenir parce que cette réaction, elle est très forte, y compris de manière terrestre désormais. Mais pour vous, c'est aussi parce que, au fond, ils n'ont pas suffisamment d'armes, j'allais dire, sur leur propre territoire. Ils vont donc ouvrir les munitions qui restent aux mains du Hezbollah.
C'est ça, c'est pour faire une diversion d'un côté, pour multiplier les fronts, pour disperser la réplique israélienne sur les intérêts iraniens. Donc, ils ont ouvert chez une colonie, la colonie libanaise, ils ont ouvert un nouveau front. Et il y a un troisième front que les Iraniens comptent ouvrir, c'est celui des minorités chiites dans le monde arabe. Ils ont agité...
Qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus ? Ça, c'est une sorte de nouvel étage de la fusée iranienne ?
C'est le troisième étage, c'est-à-dire il y a des minorités chiites parfois qui sont majoritaires dans leur pays, comme dans le royaume de Bahreïn, les chiites sont majoritaires. Le royaume de Bahreïn, c'est la base de la 5e flotte américaine. C'est juste en face de l'Iran. Là, il y a une agitation chiite qui est fomentée par les Iraniens. Mais en même temps, comme en 2011, l'Arabie dépêche des forces pour aller réprimer aux côtés du gouvernement légal ces soulèvements, si jamais ils devaient être graves. Et alors, les Iraniens ont frappé le pont qui relie l'Arabie à Bahreïn par des missiles et des drones. Donc, ça, c'est la même chose qui se passe en Irak, où en Irak aussi, vous avez une grosse majorité chiite et certains missiles ou drones qui ont frappé l'Arabie sont arrivés d'Irak.
On va revenir d'ailleurs sur le rôle de chacun de ces pays-là que vous avez cités et de la manière dont ça reconfigure à vos yeux, lorsqu'effectivement on sera sorti en quelque sorte des jours eux-mêmes du chaos, ça reconfigure les alliances et les équilibres dans la région. Mais le Liban d'abord, le Liban où en effet il y a la question de l'intervention au sol d'Israël. Emmanuel Macron dit s'être entretenu au téléphone avec Donald Trump d'une part et avec Benjamin Netanyahou de l'autre, en leur demandant de respecter, je cite, l'intégralité territoriale du Liban. Nouvelles attaques ce matin d'Israël contre le Liban. L'armée israélienne indique avoir ciblé deux terroristes dans les environs de la capitale libanaise. Et L'Orient Le Jour écrit ce matin à la une qu'il croit savoir que le plan d'Israël est de mettre en place une zone tampon, une bande de 15 kilomètres à l'intérieur du Liban, le long de la frontière. Est-ce que Israël ne prend pas prétexte des nouvelles attaques du Hezbollah pour remettre un pied au Liban ?
On se demande qui servait le Hezbollah en ouvrant le feu sur Israël. Évidemment, il servait ses maîtres iraniens, les Pasdaran, qui le dominent. Mais en même temps, le Liban aurait pu profiter de deux circonstances exceptionnelles. En 2024, il y a eu l'assassinat du chef du Hezbollah, la décapitation de l'état-major du Hezbollah, et en fin d'année, un mois plus tard, c'est Assad, le dictateur syrien, l'autoroute qui reliait Téhéran à Beyrouth a disparu, son régime est tombé. Alors c'était une opportunité historique pour que le Liban reprenne ses droits, qu'il respire, qu'il impose sa souveraineté. Or, dans l'appareil politique et administratif libanais, il y a des gens qui sont tenus par le Hezbollah. Je ne dis pas tout le monde, mais il y a encore des gens tenus par le Hezbollah.
Quand ils disent aujourd'hui, quand le pouvoir libanais dit qu'il empêche, qu'il voudrait, qu'il demande au Hezbollah de cesser immédiatement, qu'il était dans un processus de désarmement du Hezbollah. Quand L'Orient Le Jour met à la une, il y a 24 heures, ce titre, le Hezbollah suicide le Liban. N'est-ce pas une rupture? N'est-ce pas un divorce? Pas jusqu'au bout, dites-vous, c'est ça ce que vous dites, Antoine Basbous?
L'opinion publique, y compris chez les chiites, n'en peut plus du Hezbollah qui est un agent de l'Iran, qui sont des mercenaires payés par l'Iran. Personne n'en peut de leur pratique. Le gouvernement n'a pas les moyens, d'autant plus qu'à l'intérieur du gouvernement, il y a encore des factions qui sont alliées ou qui sont tenues par le Hezbollah.
Mais je suis tout de même étonnée. Le Hezbollah, comme vous le dites, avait été en quelque sorte décapité. C'est l'expression qu'on utilise pour dire que ses chefs ont été éliminés. On se souvient évidemment des interventions d'Israël avec ses fameux beepers. Bref, il était censé avoir été considérablement affaibli. Or, ce que l'on voit ces derniers jours, c'est qu'il est toujours debout, le Hezbollah.
Il a été affaibli, sauf que son commandement étant iranien, avec les Pasdaran, et comme l'État n'est pas allé chercher les missiles qui se sont cachés, et les drones qui sont cachés, parce que le Hezbollah, il y a eu un cessez-le-feu, il y a eu un accord avec Israël en novembre 2024. Mais cet accord, le Hezbollah ne l'a pas honoré, et le gouvernement libanais n'a pas eu le courage ou la capacité de l'honorer. Donc, il a gardé ce stock pour protéger Téhéran. Or, le moment est venu et le Hezbollah a agi selon les instructions de Téhéran à travers le commandement des Pasdaran.
Quelle est la suite ? Comment est-ce que vous voyez les prochains jours, mais j'allais dire même les prochaines semaines ? Il était censé y avoir les funérailles nationales de feu, le guide suprême. Ces funérailles, évidemment, sont repoussées en tout cas au minimum de quelques jours au vu de la situation, mais à un moment ou à un autre se posera la question de la succession. Ou alors, le régime pourrait très bien à un moment rendre les armes, est-ce que c'est envisageable ou est-ce qu'ils iront jusqu'au bout ?
Je ne sais pas comment ils vont gérer. Première chose, les funérailles n'auront pas lieu de sitôt parce que les Iraniens, aujourd'hui, voudraient avoir des funérailles millionnaires. Or, qui, aujourd'hui, peut marcher à Téhéran derrière le cercueil du guide ? Pour Nasrallah, qui a été tué en novembre 2024, ses funérailles se sont passées plus de 4 mois plus tard. Et donc là, il faut un cessez-le-feu pour enterrer Khamenei. Pour la suite, alors la phase 1, c'est les bombardements destructifs des éléments structurels de la défense et de l'armement iranien. La phase 2, ça peut être une fois que les Pasdaran et les Basij auront été devenus sourds et muets parce qu'ils ne peuvent plus communiquer entre eux. Il peut y avoir des soulèvements, comme nous l'avons vu en janvier dernier. La phase 3, et ça se prépare, me semble-t-il, il y a aux frontières, à la périphérie de l'Iran, beaucoup de minorités qui sont hostiles au gouvernement. On voit aujourd'hui, dans le Kurdistan irakien, des gens qui s'équipent, des gens qui s'entraînent pour rentrer, comme en 79, ils sont rentrés, ils ont pris une caserne, ils se sont armés sur place, ils sont allés à la banque Melli.
Ça ouvrirait un nouveau front contre l'Iran, mais qui serait un front en quelque sorte intérieur, du côté de l'ouest du pays ?
Intérieur, là, depuis 2 jours, les bombardements américains et israéliens se concentrent sur les casernes et les lieux des Pasdaran, détenus par les Pasdaran, dans le Kurdistan iranien. Tout ça, c'est pour simplifier, pour ouvrir la voie aux combattants kurdes qui sont du côté du Kurdistan irakien.
La Maison-Blanche qui dit hier soir que le pouvoir iranien se fait complètement anéantir. On voit pourtant, en effet, comme vous le dites, qu'il est encore dans ses derniers soubresauts au minimum. Une question, Antoine Basbous, vous qui êtes à la tête de l'Observatoire des pays arabes, quelle est la position des autres pays ? On a dit au début, et est-ce qu'on y voit plus clair, que l'Arabie Saoudite aurait peut-être, ce sont les informations de mes confrères du Washington Post, indiquer, encourager les États-Unis à intervenir, en tout cas en sous-main, ne le disant pas forcément de manière officielle. Ces pays étant touchés aujourd'hui par les représailles iraniennes, est-ce que leur intérêt est la chute, effectivement, de ce régime ? Quel jeu ils jouent aujourd'hui ?
À vrai dire, les pays arabes ont 2 intérêts contradictoires. Le premier, c'est de ne pas avoir un Iran dans le chaos, dans la guerre civile après les frappes. Parce que ils vont recevoir les boat people chez eux, sur leur territoire. Il peut y avoir énormément de dégâts chez eux. Mais de notre côté, si jamais l'opération réussit à 100%, qu'est-ce qui va se passer? L'Iran deviendra l'Eldorado qui va attirer tous les investissements du monde parce que c'est un pays cultivé, riche, assoiffé de tout, aucune infrastructure et qui veut s'ouvrir. Mais pour ça, il faut un nouveau gouvernement, la levée des sanctions et l'ouverture du pays.
C'est très intéressant ce que vous nous dites, Antoine Basbous, et c'est vraiment une des clés aussi pour comprendre ce qui se joue. C'est-à-dire que vous nous dites, au fond, bien sûr que ce chaos à court terme et le fait même d'ailleurs d'être à portée de missiles de l'Iran est
est un drame pour tous ces pays-là. D'ailleurs, on apprend à l'instant une explosion qui a été entendue à Doha, donc au Qatar. Mais dans le même temps, ils peuvent craindre la concurrence, en quelque sorte, d'un Iran puissant, rayonnant, ouvert à leur côté.
Disons, ils ont deux craintes. La première, c'est le chaos en Iran et les boat people chez eux. Et de l'autre côté, un Iran totalement rétabli. Et à ce moment-là, ça va être l'Eldorado.
Les pays du Golfe se sont construits alors que l'Iran était en quelque sorte sous cloche.
Attendez, les pays du Golfe ont construit un modèle qui cherche la prospérité, qui l'ouverture, le libéralisme, sans chercher la guerre. L'Iran cherchait la guerre et l'implantait partout, y compris aux frontières d'Israël. L'Iran pratiquait le terrorisme international. Aucun pays arabe n'a jamais été, sauf l'axe iranien. Les pays du Golfe n'ont jamais été
belliqueux,
n'ont jamais été accusés d'avoir mené une action terroriste quelle qu'elle soit.
Sur cette question justement du terrorisme, Antoine Basbous, on sait que le ministère de l'Intérieur en France a annoncé le renforcement de la protection d'un certain nombre de cibles et notamment d'ailleurs des soutiens de la population iranienne ici en France. Vous qui connaissez par cœur le fonctionnement aussi de l'Iran, est-ce qu'en effet il faut craindre que le régime, dans cette opération de terre brûlée là-bas, rajoute effectivement des actions potentiellement terroristes. Ici, en a-t-il les moyens de téléguider cela ?
Je crois que le régime a déjà implanté beaucoup d'éléments pour jouer le terrorisme international. Est-ce que ces gens-là, quand ils voient décliner le régime, vont passer à l'acte ? C'est ça la question. Sauf s'ils sont totalement idéologisés et sont pour jouer un peu les kamikazes. Mais raisonnablement, je crois que ces gens, quand ils voient décliner, quand ils voient chuter le régime et quand ils le voient aux abois, peut-être qu'ils vont s'abstenir, mais il faut rester toujours vigilant.
Les négociations, c'est fini, c'est derrière nous, ça n'est plus possible, ça n'est plus envisageable. La seule issue de ce conflit, c'est la chute du régime.
Je crois, avec qui négocier ? Parce que si c'est quelqu'un qui est issu du régime, qui veut rétablir la République islamique avec son idéologie, c'est non. En revanche, s'il y a un nouveau pouvoir qui arrive et qui dit « je retourne l'appareil pour stabiliser le pays et lever les sanctions et libéraliser la société », évidemment qu'il faut négocier avec.
Antoine Basbous, je voudrais qu'on prenne le temps de parler avec vous de deux fils d'eux. Le fils du dernier Shah, dont le nom est évoqué, Reza Pahlavi, et puis le fils d'Ali Khamenei, Mojtaba,
oui.
Qui est également, lui, évoqué pour prendre la succession. Qui sont ces deux personnage. Est-ce que vous pouvez prendre le temps de nous le dire ?
Alors, Reza Pahlavi, c'est le fils, l'héritier du Shah d'Iran. Et ça fait 47 ans qu'il a quitté le pays. Il n'a pas entretenu la base sociale, l'idéologie, les formations qui pouvaient être monarchistes en Iran. Un jour, j'ai dîné avec lui à Paris. Je l'ai interrogé, mais si vous n'étiez pas le fils du Shah et l'héritier du trône, qu'est-ce que vous auriez aimé faire ? Il m'a dit, après réflexion, coach sportif. Un coach sportif n'a pas l'ADN de débarquer, d'être parachuté à Téhéran et de survivre longtemps parmi les Pasdaran et les Mollahs. Alors Mojtaba Khamenei, il est à la tête de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Il n'a pas le rang spirituel pour guider. Et puis, s'il était le successeur de son père, on passerait d'une monarchie monarchique à une monarchie religieuse. Je ne crois pas que ce soit très intelligent de la part de l'appareil monarchique iranien.
Antoine Basbous, lorsque vous vous projetez à quelques jours, peut-être quelques semaines, est-ce que vous voyez sortir de ce chaos un certain espoir ? Est-ce que vous vous dites oui, une nouvelle ère plus apaisée peut s'ouvrir ?
Écoutez, ça fait 47 ans que ce régime prône et agite la haine. Rappelez-vous tous les jours, mort à l'Amérique, mort à Israël. Rappelez-vous les attentats qu'ils ont commis aussi bien en France, le Drakkar au Liban, contre ses voisins arabes, contre les États-Unis. 241 Marines ont péri en une seule bombe en 1983. Bref, c'est un régime qui est haï, qui a fait faillite. Il a dépensé des dizaines de milliards de dollars pour exporter la révolution, pour créer un programme nucléaire qui est aujourd'hui nulle part. il affame son peuple. Un dollar aujourd'hui est échangé pour 2 millions de rials. Donc ce pays qui est riche, qui est cultivé, eh bien il a besoin de nouvelles respirations. Et les prétentions de l'Iran islamique pour exporter et dominer la région, c'est vrai qu'il a réussi à dominer 4 capitales arabes, il le revendiquait, plus Gaza. Bon, ce temps est révolu, ils ont joué le tout pour le tout, ils ont perdu. Il va falloir réfléchir au demi-prochain siècle.
C'est en quelque sorte la fin, la poursuite de ce qui a été ouvert le 7 octobre aujourd'hui qui se joue.
C'est l'extinction de la facture en quelque sorte. Les premiers acteurs, Hamas, Hezbollah, Assad, Houthi et un peu les milices irakiennes ont payé. Et maintenant, c'est le cerveau qui a placé tous ces essaims de frelons autour d'Israël, qui a conçu, c'est le général Soleimani, qui a conçu cette mise en place face à Israël. Eh bien, c'est le cerveau de tout ça qui est en train de payer la facture aujourd'hui.
Merci beaucoup Antoine Basbous pour vos explications ce matin. Politologue associé chez Forward Global et vous êtes le directeur de l'Observatoire des pays arabes. Il est 8h47 et vous êtes bien sur RMC BFM TV. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50, face à Canteloup.
Et comme tous les matins, l'info revisité par Nicolas Canteloup. Antoine Basbous, grand spécialiste du monde arabe, était mon invité ce matin. Philippe Devilliers, vous vouliez réagir?
Oui, bonjour à mon collègue Antoine Basbous, grand spécialiste du monde arabe. C'est pas le seul. Moi aussi, je connais bien le monde arabe. Hélas! Bah écoutez, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour en voir des arabes. Même pas besoin de passer la frontière.
Oh non.
Mon épicier, même Malherbe, arabe. Mon teinturier arabe. Dans ma rue, il y a même un restaurateur arabe, un Tunisien. Tenez-vous bien, Tunisien, vous savez ce qu'il fait? Il tient un restaurant marocain. C'est vous dire qu'on croit les connaître, mais ils avancent masqués. Faut pas s'étonner après que des dealers algériens vendent de la marocaine.
On connaît votre regard sur la France. Enfin, on voulait quand même parler de l'Iran, monsieur Devilliers.
Oui, ben ça j'arrive. Ah. Hein. Ben, permettez, Charles de Gaulle, il met 10 jours pour arriver sur zone. Je peux quand même mettre 10 secondes avant d'arriver sur le sujet.
D'accord, okay.
Ah. Tiens, mais justement, parler du... Charles de Gaulle, pour moi, c'est une erreur stratégique majeure. On va pas combattre les Arabes avec le Charles de Gaulle.
Ah oui?
Le seul capable d'arrêter ça. Oui, j'aime bien marquer des silences qui plombent l'ambiance. Juste le temps que les gens aient sur Skyrock. Cette radio dépravée. Dont le seul capable d'arrêter ça, c'est le Charles Martel. Elle était bonne, fallait la faire venir.
Les bombardements s'accentuent. Donald Trump se donne une note de 15 sur 10.
Et 15 sur 10, c'est bien, mais il pourrait avoir 20 sur 10 en éradiquant tout l'islam radical, tout, la totalité de l'islam radical. C'est pas compliqué, il suffit de bombarder toutes les zones gangrénées. La Seine-Saint-Denis, Marseille, le siège de la France insoumise. Et il y a une autre France, il y a une autre France qu'il faut éradiquer. C'est France Télévisions.
Merci Philippe Devilliers. Ce matin, Stéphane Bern est avec nous pour les titres.
Oh oui, Apolline, je vais remettre un peu de rythme. Avec le conflit Moyen-Orient, tout le monde s'inquiète, c'est vrai, sur le prix de l'essence et comment ça stocker. Eh bien, moi, j'ai la solution. Revenons, n'est-ce pas, mon cher Thibaut Texer, revenons au bon vieux temps des calèches et autres attelages.
Voilà.
Mais oui, c'est distingué, c'est chic, c'est glamour. J'aurais peut-être dû le dire à l'antenne, parce que maintenant tout le monde va se ruer pour faire des stocks de foin et d'avoine.
Oh là là.
Bon, c'est pas grave, j'assume. Allez, fouette cochée, en avant pour les titres. Dans le conflit israélien, Donald Trump s'est dit prêt à confier Vladimir Poutine un rôle de médiateur. Mais c'est complètement con ça. Non, mais pourquoi pas confier une médiation familiale à Xavier Dupont de Ligonnès? Allez, le régime iranien a rassuré sa population en lui promettant de tout faire pour que le pays puisse retrouver au plus vite une vie normale avec ses arrestations arbitraires, ses pendaisons en public, ses petites lapidations. Oui, ça peut choquer, mais c'est leur patrimoine culturel que vous voulez. Oui, moi j'aime le patrimoine, voilà.
Merci. Alors, comment comprendre cette guerre? On va tout de suite retrouver notre expert défense, Didier François.
Oui, alors...
Ouais, c'est, le jingle, c'est bien. Oui, bon, bonjour Apolline. Force est de constater que cette guerre a des répercussions jusque sur le territoire français, et même plus précisément, on a pu le constater carrément dans nos locaux.
Dans nos locaux.
Ah, mais sur les plateaux télé, c'est la guerre. Ah, hein, ouais, oui, on peut le dire à nos auditeurs, nos téléspectateurs, tous les experts du monde arabe, de l'Iran, de la défense, bref, tous les experts du bordel ambiant sont sortis. Hein, ils s'en donnent à cœur joie. C'est à celui qui passera le plus à l'antenne. Moi, j'ai assisté dans les couloirs de BFM à des scènes incroyables.
Ah bon,
oui, ça se bouscule, ça se fait des croche-pieds, ça se tire la cravate, ça se balance son livre à la tronche. C'est à qui l'emportera en nombre de passages télé entre les Antoine Basse-Bousse, les Alain Bohor, les Gilles Kepel et autres demi-illustres inconnus.
Oh, allez, on va parler des élections municipales à Nice. Éric Ciotti est avec nous. Bonjour. Vous parlez d'ailleurs un mot sur le grand. Vous êtes toujours pro-Trump.
Oui, je suis pro-Trump et je l'assume. Et je m'en inspire, Mme Malherbe. Ah, oui. Comme Donald Trump en Iran, je ferai tout pour faire tomber le régime de l'ayatollah Estrosi.
Ah,
afin de permettre au peuple niçois d'être délivré de ce tyran. Ah. Je le dis, il est grand temps qu'à Nice, les habitantes puissent sortir dans la rue sans être voilées, sans devoir se couvrir la tête avec un carré Hermès. Oh. Que chacune puisse librement arborer leurs beaux cheveux violets et leurs magnifiques visages botoxés. Oui, je le dis, on le voit le point là, oui. Liberté pour Nice.
Il lève le point, Christian Estrosi. Votre concurrent.
J'aime bien quand vous commentez à la radio. Oui, il se passe un tel spectacle dans ce studio.
Alors, Éric,
c'est le puits du fou ici. Oui.
Votre concurrent Christian Estrosi a retrouvé accroché au portail de son domicile une tête de porc coupée.
Oui, alors ça c'est lamentable. Mm. C'est lamentable. Je suis en total désaccord avec ses méthodes. Mm. Christian Estrosi, encore une fois, cherche à attirer l'attention des électeurs en se victimisant. Mais oui, mais il faut dire les choses en se victimisant, tout ça pour stopper sa dégringolade dans les sondages. C'est honteux.
Non, mais c'est pas lui qui a fait ça.
C'est honteux avec un grand T.
C'est honteux, mais c'est pas lui qui a fait ça.
Non, alors d'accord, si c'est pas lui, c'est qui alors, hein? En tout cas, quelqu'un qui apparemment, grâce à cette tête de cochon, et les autres vers le chrono, grâce à cette tête de cochon, donc je reprends la phrase du début, oui, sinon l'auditeur ne comprend. Moi, je m'adresse aux Niçois, qui ne comprennent plus rien de cette chronique.
Cette tête de cochon.
Il souhaite dénoncer le fait que M. Estrosi se soit converti à l'islam. On est en train de dénoncer qu'il a transformé son salon en mosquée pour accueillir des migrants pendant le ramadan. Voilà. Lors du débat que j'espère vous organiserez un jour à Nice. Je compte.
Il faut absolument que j'y aille samedi. Je n'irai pas.
Voilà, mais moi j'y tiens. Non, je compte sur vous, Mme Malherbe. Bon, enfin bref.
Alors, monsieur,
je compte sur vous. Pour demander si le vrai nom de Monsieur Estrosi, si son vrai nom c'est Abdelkader Ben Trosi, ou est-ce peut-être Mokhtar Ben Ahmed El Trosi. Les Niçois ont le droit de savoir que leur ville est gouvernée par un imam depuis plus de 15 ans. Pardon.
Allez, merci Eric. Selon les tours opérateurs,
c'est pas fini,
25 000 Français ont annulé les vacances qu'ils avaient réservées à Dubaï et dans d'autres pays du Golfe. Jean Castex est avec nous. Vous voulez leur proposer quoi comme destination de repli?
Bonjour Madame Malherbe, je n'arrivais pas à remonter le siège, monsieur. Alors, pour ceux qui veulent vivre la même ambiance qu'à Dubaï, qui n'ont pas les moyens, je leur propose un TGV à destination de Marseille. Une destination, elle aussi, avec de jeunes femmes blondes peroxydées, avec de grosses poitrines en plastique, un décor maritime, des explosions, des bâtiments en ruine. Marseille, vous savez, c'est comme Dubaï, mais à moins cher, hein. Et pour ceux qui aiment les villes ravagées, je propose bien sûr un TER pour le Havre. Et pour ceux qui voudraient voir un désert, nous avons une promo sur les billets pour la Lozère. Dubaï, à 2 heures de chez soi avec SNCF, c'est possible.